Une rubrique sur les jeux de société, c'est ludique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ludique, hein, votre rubrique sur les jeux de société. Alors j'espère que vous avez bien profité de l'émission du 31 avec plein de jeux d'ambiance. C'est la rentrée donc pour C'est ludique aujourd'hui. On va revenir forcément hein, sur la saga Azul puisque début décembre, je vous avais présenté le premier jeu de la série qui s'appelle Azul et aujourd'hui on parlera de Azul, les vitraux de Sintra. On sera également d'ailleurs avec Martin qui est le responsable marketing de chez Plan B. Et on retrouvera donc son interview, une interview que vous avez déjà pu découvrir, la première partie en tout cas, au mois de décembre. Un autre jeu qu'on parlera aujourd'hui, qui marche bien, si vous vous rappelez du taquin, eh bien on parlera de Flash 8. Également au programme, un jeu de dés, Nautiluca. Et puis on aura Aymeric aux alentours de 13h20 pour parler d'un petit jeu pour les enfants qui s'appelle Kariba. Voilà en tout cas tout le programme qui vous attend pour ce premier C'est ludique de l'année. Allez, on commence tout de suite en musique avec Kenji Girac. Ça vous dirait ? Eh ben ça tombe bien, voici que Dieu me pardonne sur Millennium.
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mon mama.
Hashtag sans écran, c'est ludique.
Et donc la saga Azul, hein, le mois dernier je vous parlais du jeu donc Azul, le jeu référence hein, de Michael Kiesling qui a obtenu tous les prix en 2018. Et bien cette semaine, la saga Azul continue, voici le deuxième Azul, les vitraux de Sintra. Et contrairement à d'autres jeux, et bien ce deuxième Azul est bien un nouveau jeu, hein, ce n'est pas une extension. Si dans le premier Azul il fallait poser des carreaux de faïence, et bien dans les vitraux de Sintra, vous allez devenir un maître vitrier, donc poser des vitraux avec de nouvelles règles un petit peu plus stratégiques. Plan B frappe fort une nouvelle fois avec Sintra. Alors ah oui, pourquoi Sintra ? Eh bien c'est une ville hein, du Portugal, près de Lisbonne, avec de beaux monuments. On reste donc dans le même pays. Bon, l'histoire c'est bien, mais comment on joue ? Eh bien c'est simple, déjà on va reprendre la même mécanique pour choisir ces tuiles qui sont toujours posées sur des fabriques. Comme dans le premier, on prend soit toutes les tuiles d'une même couleur d'une fabrique, soit toutes les tuiles d'une même couleur au centre de la table. Et comme dans le premier Azul, si on est le premier joueur à le faire, eh bien on aura un jeton malus. Ça, c'est la première action. Et oui, car dans Sintra, il y a une deuxième action possible. Vous allez pouvoir déplacer votre vitrier, on va y revenir d'ici quelques minutes. Alors votre plateau de jeu est composé de 8 fenêtres verticales recto verso où vous pourrez mettre donc 5 vitraux. Vous devez donc remplir le plus de vitraux au bout de 6 manches pour avoir le plus de points, mais attention, il faut aussi en casser le moins possible. Le principe d'Azul était de placer hein, ces carreaux en ligne pour faire un mur de faïence, et bien là, il faut les placer en colonne où vous aurez donc différentes couleurs de verre. Cette fois-ci, les tuiles sont donc transparentes, c'est normal, c'est des vitraux. Alors selon où est placé votre vitrier, vous aurez le droit de poser vos vitraux sur cette colonne. Et si vous avez pris trop de verre dans les fabriques, c'est bien connu, le verre ça casse. Du coup, vous aurez des points négatifs et vous les mettrez dans une tour qui est prévue pour les recevoir. Le recyclage, c'est important de nos jours. Alors pour placer du verre, il faut donc déplacer votre vitrier vers la droite. Impossible de remplir donc les vitraux qui se trouvent sur votre gauche, sauf si vous utilisez l'action déplacer son vitrier à gauche. Alors contrairement à Azul, où chacun avait sa piste de points, pour Sintra, il y a une piste de points commune à tous qui contient aussi la piste des 6 manches, donnant un avantage en couleur à chaque manche. Selon la couleur, hein, il y aura plus de points. Et il y a aussi la piste vert brisé, où là vous aurez des points en moins. Alors comment on calcule les points ? Alors toute fenêtre complète vous permettra d'obtenir les points correspondants de celle-ci. Et en plus, hein, si des tuiles de couleur correspondent à la tuile bonus du marqueur de tour, eh bien vous gagnerez des points supplémentaires selon le nombre de tuiles bien sûr de cette couleur. Une fois votre fenêtre terminée, eh bien vous choisissez l'un des verres et vous le placez en bas pour dire que cette fenêtre a été rénovée. Et vous retournez la fenêtre. Si vous remplissez cette nouvelle phase, vous retirez cette fenêtre et vous mettez un second vitrail en bas de la colonne. Il y a aussi un des points en plus en fin de partie, mais je ne vais pas en parler ici, hein, je vous laisserai découvrir les différentes étapes de scoring. Alors les vitraux de Sintra est un jeu un peu plus complexe, hein. Il faut savoir que quand vous utilisez l'action déplacer son vitrier, vous perdez forcément un tour pour placer des vitraux. Et puis dans ce second opus, il y a une notion de temps, car vous n'aurez que 6 manches, pas une de plus. Il faudra donc aussi mettre en place une stratégie pour prendre dans les fabriques en premier les tuiles de la couleur bonus à chaque manche, Syntra ait un ton au-dessus au niveau stratégie, mais comme Azul, hein, ça reste un jeu familial, même s'il faut encore plus planifier que dans le premier. Une chose est sûre, hein, les deux ne feront pas doublon. Parfois vous sortirez l'un, parfois ça sera l'autre. Une fois encore, Plan B réussit à nous surprendre en ajoutant l'action du vitrier. Mais si vous voulez plus de stratégie encore, rendez-vous prochainement pour la suite de la saga Azul, car Pavillon d'été, le troisième de la série, vient de sortir. Et selon les premiers échos, il serait un peu plus complet ce que les deux premiers. Je vous en parle en tout cas bientôt dans C'est Ludique, hein, certainement à la fin du mois ou au début du mois de février. Et on va s'écouter tout de suite Anne-Marie qui a joué à Azul Syntra.
Les vitraux de Syntra. Alors, les règles sont simples, on garde le même mécanisme qu'Azul. Cette fois en tant que vitrier. Encore une fois, le matériel est vraiment beau. Les règles sont simples, ce qui en fait un vrai jeu familial. Il y a une vraie tactique de jeu à avoir, entre le choix des couleurs, des colonnes à réaliser. On ajoute la contrainte de l'artisan, qu'il faut savoir positionner au mieux. La partie s'arrête en 6 manches, et là commence seulement le décompte des points. C'est un jeu qu'on sort avec plaisir. C'est parti pour la déco du palais.
Alors voici, on va retrouver justement Martin Bouchard. Martin Bouchard qui est donc le responsable hein, marketing de Plan B. Donc j'avais eu en interview Martin, c'était juste avant les fêtes de Noël. Et vous avez eu la première partie donc au mois de décembre. Et là c'est la deuxième partie de cette interview où il va nous parler en particulier eh bien, de Azul. Puisque voilà pourquoi il y a un troisième opus, pourquoi ils font comme ça des séries au niveau de leur jeu. Azul, hein, qui sera notre saga dans C'est Ludique, a eu, mais a toujours un succès énorme. Est-ce que vous y avez cru tout de suite? Qu'est-ce qui fait qu'il se démarque d'autres jeux?
On y a cru tout de suite du début. Et le jeu a été, je dirais, c'est une combinaison de plein de facteurs au niveau du design, par exemple, que ce soit au niveau du design du jeu comme tel et l'expérience de jeu, c'est très fin, facile à aborder, mais après, il y a plusieurs niveaux de... par exemple, l'histoire des marchés dans le jeu, si tu prends des pièces, ça va être des offres aux prochains joueurs, etc. Cette mécanique-là est très, très fine. Donc, on l'a vu du début que, le jeu, il y avait un potentiel d'aller chercher, le joueur occasionnel, mais après, il y en avait assez dans le jeu pour les plus gros joueurs, à savoir, je développe une stratégie et le jeu... me permet de rejouer, d'explorer différentes stratégies pour justement aller plus loin. Après ça, au niveau du design et tout ça, tôt dans le projet, c'était important pour nous la sensation au niveau autant tactile que visuel, ça soit agréable de jouer avec les pièces, même les pièces on est allé dans quel plastique on allait utiliser, la rondeur, le poids, le son avec ces pièces-là et aussi au niveau de l'imprimé et tout ça parce que après dans le choix, même en discutant encore cette semaine avec Chris qui a réalisé l'illustration de la couverture et tout ça qui a l'air toute simple, mais dans le choix des designs et tout ça, pour lui, faire une couverture comme ça, c'est encore plus difficile que faire une couverture comme Hera, par exemple, parce que ça repose sur tellement peu d'éléments que d'arriver avec une couverture parfaite, le mix harmonieux des designs et tout ça, je pense qu'il y a eu un peu toute cette recherche-là, puis après ça, un peu de... Puis, en cours de parcours, je dirais des hasards ou des chances qu'on a eu de prendre la bonne décision au bon moment ou le jeu qui est arrivé le timing parfait aussi, j'imagine, pour le marché ou parce que les jeux abstraits étaient présents sur le marché ou ils semblaient un peu d'arriver avec un nouveau design frais comme ça aussi, le timing était je pense super bon aussi en même temps.
Alors, on rappelle hein, qu'il y a un nouveau Azul qui va sortir. Alors, vous aimez bien les trilogies chez Plan B, puisque Century, c'est aussi une trilogie, non?
Celle-là n'avait pas été annoncée comme une trilogie. Oui, c'est ça, le nouveau qui vient de sortir. On est super content de la réception qu'il y a eu. On aimait beaucoup la mécanique de jeu à chaque fois. Michael Kissing revient avec il revisite l'idée des marchés et tout ça. On pose les tuiles, mais en explorant des nouvelles mécaniques. Puis celle-là, vraiment, elle nous a séduit du début. Là. Fait que c'est vraiment une très, très belle addition dans la collection Azul.
Ça voudrait dire qu'il pourrait y en avoir peut-être un quatrième aussi, alors?
Ouais, en fait, on regarde toujours c'est quoi les développements possibles avec la marque. Et Michael Kissing, comme je disais, nous revient avec des nouvelles idées. Après ça, sur le calendrier ou sur le développement de la marque, ouais. Quand sera le prochain, il n'y a pas vraiment de décision prise sur OK, est-ce qu'il y aura un prochain, oui, quand, comment.
Mais ça dépend s'il y a une nouvelle mécanique qui est apportée aussi, quoi.
Oui, exact. Exact.
J'aimerais revenir sur un jeu qui a eu le Spiel en 2014. Il y a une nouvelle version qui est sortie hein, de Camel Up, mais il n'y a rien eu en France. Pourquoi?
Je crois que ça a été au niveau de la distribution le problème. Le jeu a été, distribué sur la boutique TicTrac.
Oui.
Et là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas en contact avec la distribution et un peu s'il y a eu des problèmes au niveau de la distribution ou quoi que ce soit. Mais je sais que c'est quelque chose comme ça qui est arrivé.
Ouais.
Et c'est malheureux parce que, c'est un très bon jeu. Moi, j'adorais Camel Up du début. Et la nouvelle version, je la trouve super belle et c'est un très bon jeu familial, en fait, plein de surprises et tout ça. Puis, je regarde sur les autres marchés, aux États-Unis, la relance, c'est pas vraiment une relance dans le sens que, OK, la première version se vendait encore très bien, mais la deuxième version se vend encore mieux. Puis on a des très, très, très belles ventes aux États-Unis. C'est que je trouve ça un peu... et souvent, si je regarde sur plein de jeux, par exemple, sur Century. Century, il se vend bien aux États-Unis. C'est la même chose en France. Souvent, les deux marchés vont avoir à peu près les mêmes goûts sur les mêmes jeux et tout ça. De temps à autre, ça fait un peu différent sur l'Allemagne. Sur Century, c'est un petit peu différent sur l'Allemagne. C'est typiquement le genre de jeu où est-ce que, c'est un peu difficile, mais gros succès en France et gros succès aux États-Unis. Et c'est un peu la même chose avec Camel Up. Je me dis, ce jeu marche tellement bien comme ça, la nouvelle version aux États-Unis, ça devrait normalement bien fonctionner en France.
Et alors, du coup, on parlait de distribution, distributeur. Quel est le lien entre Plan B, Novalis, Asmodée?
C'est notre distributeur pour tous les jeux.
D'accord.
Tous les jeux de toutes les marques associées à Plan B. Donc, que ce soit Plan B, Next Move, Gurtspiel, Pretzel Games.
Ouais, d'accord. Et donc, c'est Asmodée qui...
Et sur plusieurs marchés aussi. Pas nécessairement juste sur la France, mais sur plusieurs marchés. Et ça se trouve être notre partenaire principal.
D'accord. La suite pour Plan B en 2020, il y a des nouveaux jeux en préparation?
Oui, il y a plein de nouveaux jeux en préparation. Des trucs qui sont annoncés autour de Nuremberg et plus tard dans l'année.
D'accord.
J'essaie de voir si Non, il y a des trucs là-dedans qui ne sont pas annoncés, donc je peux parler.
D'accord, il n'y a pas de souci. pour finir, Martin, si on s'approche de Noël, si vous deviez offrir un seul jeu à Noël, ça serait lequel?
Ben, en fait, ça dépend, c'est pour qui.
Oui, ouais, c'est vrai.
Moi, à chaque Noël, je me pose la question parce que c'est un des cadeaux que j'offre le plus, évidemment. Et si, par exemple, je l'offre à des joueurs occasionnels ou même des gens qui ont déserté un peu le jeu de société et qui jouent plus trop à des jeux de société, c'est sûr que je vais offrir Azul.
Ouais.
Parce que c'est un super jeu d'entrée et comme ça, je serais capable d'aller convaincre des nouveaux joueurs et tout ça.
D'accord.
Si j'ai à peu près le même cas, mais avec... des joueurs qui auraient, ben, quelqu'un qui aurait une pointe de compétition ou de joueurs et tout ça. Et je l'ai fait avec mon neveu l'année passée. Il jouait pas trop à des jeux de société, mais je me suis dit, lui, c'est pas Azul qu'il faut que je lui offre. C'est plutôt Century. Et Century, c'est un excellent jeu d'entrée aussi, mais il faut avoir un peu un esprit un petit peu plus, compétitif ou adrénaline. Lui, il va pouvoir provoquer un petit peu plus d'adrénaline.
D'accord.
Après, cette année, si j'offre un gros cadeau à un ami gamer ou que je pense que tout et tout ça, je lui offrirais Hera.
D'accord. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Martin, d'avoir été sur Millennium. Et puis, on souhaite plein de bonnes choses à Plan B.
Merci à toi et des belles fêtes à tous. Et beaucoup de temps pour jouer.
Merci, Martin.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Hashtag sans écran, c'est ludique. Une rubrique sur les jeux de société, c'est ludique.
Et c'est le moment de retrouver Aymeric. Bonne année, Aymeric.
Bonne année, Mathieu. Bonne année ludique à toutes et tous.
Ça va bien?
Ah bah ça va très bien, on est reparti.
Bon, ton 31, t'as joué?
Eh oui, j'ai joué.
Alors quel jeu t'as sorti, tiens?
Alors on a fait du Codename,
ouais.
Pour être un petit peu dans le classique, on a fait du Catan,
ouais.
Classique aussi. Et je me suis offert pendant ces vacances la Vallée des Marchands dont on avait parlé il y a quelques semaines.
Exact.
Je n'avais pas en ma possession et j'en ai converti plusieurs.
Et t'en as converti plusieurs.
Oui.
Et aujourd'hui, tu veux nous parler d'un petit jeu pour les enfants. D'ailleurs, est-ce que les enfants ont eu des jeux de société?
Oui, alors mon grand a eu Jamaïca.
Jamaïca, ah oui, c'est un jeu de Space Cowboy, ça.
Alors, je ne sais plus l'éditeur,
je crois, hein.
Alors je ne vais faire pas dire de bêtises.
Je ne sais plus en quelle année il est sorti, celui-là.
Oui, il a déjà un petit peu de bouteille.
Ouais.
De rhum.
On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein.
Évidemment.
Les fêtes sont terminées, le champagne arrête de couler. On va parler donc de Kariba aujourd'hui, un tout petit jeu pour les enfants de chez Helvetica.
Voilà, donc Kariba, c'est un jeu de Rainer Knizia, qui est aussi un auteur assez prolifique, pour 2 à 5 joueurs, à partir de 5 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. Alors c'est un jeu de plis où il faut récupérer le plus de cartes à la fin de la partie. C'est donc un jeu de cartes où nous allons croiser des zèbres, des autruches et autres éléphants. C'est très animalier tout ça. Au centre de la table, on place une mare où les animaux vont venir s'abreuver. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ainsi, la carte la plus forte de valeur, par exemple le 8, c'est la carte la plus forte qui est représentée par l'éléphant, va chasser de la mare les animaux de plus faible la valeur. Mais l'éléphant a peur des souris, qui est la carte de valeur 1.
C'est bien connu.
Pour vous donner un petit peu l'état d'esprit du jeu. Donc concrètement, comment on joue? Chaque joueur a 5 cartes en main, qu'on va tirer aléatoirement, donc des cartes de valeur 1 à 8. À mon tour, je joue des cartes de ma main, que je place autour de la mare. J'en joue autant que je veux jusqu'à 3, tant qu'elles ont la même valeur. Et je pioche autant de cartes pour refaire ma main à 5 cartes. À partir du moment où 3 cartes identiques sont autour de la mare, on déclenche une chasse. Et donc les cartes jouées de plus forte valeur, là où il y en a 3, chassent les cartes inférieures. Et le joueur qui a déclenché la chasse récupère les cartes qui ont été chassées. Et donc 3 éléphants de valeur 8 peuvent donc chasser tous les animaux qui seraient de valeur en dessous de la mare, car les éléphants donc ne craignent rien, sauf les souris. Et si 3 souris de valeur 1 sont jouées, là on peut chasser les éléphants. Et on continue de jouer de cette manière, la partie se termine quand la pioche est épuisée et dès qu'un joueur n'a plus de cartes. C'est aussi simple que ça et c'est très malin. Et le joueur ayant récupéré le plus de cartes, eh ben, il remporte la partie tout simplement.
Ouais, c'est très très simple comme jeu, les enfants aiment beaucoup. Et en plus, c'est une toute petite boîte, donc on peut l'emmener vraiment, vraiment partout.
Voilà, c'est les petites boîtes de chez Helvetica comme Bandido, qui est super sympa.
Leur dernier Misty aussi que j'avais présenté dans la spéciale enfant pour Noël.
Ouais, ils ont fait vraiment une petite collection super sympa.
Emeric, quels jeux se sont le mieux vendus justement pendant les fêtes ?
Alors, on va retrouver un classement qui est un peu identique au précédent. Hein. En cinquième position, on retrouve Azul. Toujours l'As d'or qui est toujours par là. En quatrième position, Time Bomb, ouais. Qui est un jeu un petit peu plus vieux, mais comme il a été réédité, il remonte un petit peu. The Mind, en troisième position. En deuxième position, le dernier Unlock, le Epic Adventures.
Ah, il est plus premier.
Et non, et en premier, c'est Just One.
Ah bah oui, Just One, forcément.
Donc voilà, on retrouve les mêmes, mais ça bouge un petit peu d'une fois sur l'autre.
Et quand on regarde bien ce classement des fêtes, on voit que la plupart ont obtenu des prix.
Voilà, Just One, Lock, oui, bah oui, à part Time Bomb.
Ouais, c'est tout, ouais.
Voilà, les quatre ont eu soit l'As, soit le Spiel, soit les deux.
D'ailleurs, pour l'As d'or, je crois que c'est d'ici 10 jours qu'on saura les nominés.
Les nominés, oui, seront bientôt annoncés.
Bah en tout cas, tu peux peut-être déjà nous annoncer ce que tu vas présenter la semaine prochaine, comme ça, un petit scoop.
Écoute, j'en sais rien.
T'en sais rien, ça sera la surprise, voilà.
Ça sera la surprise.
Ça marche, salut Emeric.
Bonne journée à tous.
Salut,
à la semaine prochaine.
Allez, pour la musique, c'est Alok et Ugel avec I Don't Wanna Talk sur Millennium.
Think you got me. Hashtag sans écran, parents et enfants autour de la table. C'est l'heure de jouer. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et on continue dans C'est Ludique. Maintenant, on va parler d'un jeu du scorpion masqué. Alors, si l'éditeur a fait 2 cartons en 2019, avec notamment Zombie Kids Evolution et Stay Cool, avant les fêtes de fin d'année, ils ont sorti Flash 8, un jeu où il faut être rapide comme l'éclair pour réaliser les combinaisons avant vos adversaires. Alors distribué par Asmodée, Flash 8 est un jeu qui marque les esprits des plus jeunes, mais aussi de tout le monde, toute génération peuvent jouer, car il va reprendre le principe du taquin. Allez, un petit retour en arrière, puisque le taquin est un jeu solitaire en forme de damier créé vers 1870 aux États-Unis. Il est composé de 15 petits carreaux numérotés de 1 à 15 qui glissent dans un cadre prévu pour 16. Il consiste à remettre dans l'ordre les 15 carreaux à partir d'une configuration initiale quelconque. Le principe a été étendu à toutes sortes d'autres jeux avec des dessins et des lettres. Faut savoir que le Rubik's Cube est aujourd'hui considéré comme l'un des descendants du taquin. Allez, revenons à Flash 8 ici, il va falloir remettre les électrons dans la bonne combinaison. Et on ne parle pas sur 16, mais sur 9 cases, donc il y aura 8 électrons à remettre dans l'ordre. Alors vous pouvez jouer à plusieurs, jusqu'à 4 avec une boîte, mais rien ne vous empêche d'aller d'en acheter une deuxième, si vous voulez jouer à 8, une troisième, si vous voulez jouer à 12, mais on peut aussi jouer seul. Alors quand on joue à plusieurs, on va mélanger des cartes modèles que l'on va devoir reproduire le plus rapidement possible. Et selon comment est placé autour de la table, le plateau, on ne fera pas forcément la même combinaison. Tous les joueurs ne feront pas la même combinaison. En gros, chacun a son plateau avec ses 8 électrons en plastique de couleur. Il y a 3 bleus, 2 jaunes, un rouge, un violet et un vert. En fait, la carte qu'il voit face à lui en faisant glisser ses 8 petits jetons, c'est cette combinaison-là qu'il va devoir reproduire. Alors on fait des tas de cartes sur la table et à chaque fois que l'on a réussi une carte, on crie « Flash ». Tout le monde s'arrête, le temps de vérifier que la carte a bien été réalisée. et la partie reprend avec les autres cartes visibles et ainsi de suite. Celui qui en a le plus gagné, eh bien, gagne un point par carte. Mais attention, hein, y a des cartes un petit peu plus compliquées avec des étoiles. Et sur la carte, donc, c'est un point bonus en plus. C'est un jeu où il faut avoir confiance aux autres, hein. Aussi, car bien sûr, il est interdit de retourner son plateau ou de déplacer les électrons sans les faire glisser. Et on déplace d'ailleurs les électrons avec un seul doigt. Et puis, il y a une version où l'on peut jouer seul. On a 4 minutes et on doit réaliser des modèles imposés sur le verso des cartes. C'est bien, mais c'est vraiment beaucoup plus sympa à plusieurs. C'est là qu'on prend le plus de plaisir. Alors, c'est un jeu abstrait, hein, rapide, que les enfants, mais aussi les grands, vont adorer. Une belle surprise de la fin d'année de 2019. Alors au début, on se dit « Ouais, c'est sympa, c'est mignon. » Et pourtant, c'est un jeu qui va sortir souvent. On devient vite accro. Et puis, ce qui est sympa, parfois, on est à deux doigts de prendre une carte. Et pourtant, l'autre a été plus rapide. Mais bonne nouvelle, puisque la carte suivante, on a juste un électron à déplacer et on aura la bonne combi. Tout le monde a vraiment donc sa chance, mais il faut être quand même très rapide. Pour les plus grands, il y a même sur les plateaux de jeu, ça c'est plutôt sympa, des références à des vieux jeux vidéo, notamment Pac-Man ou Bomberman. Il faut bien chercher parce qu'il y en a plein. On trouvera peut-être le petit plombier de chez Nintendo aussi. Encore un jeu du Scorpion Masqué qui va cartonner. On va s'écouter tout de suite Johan qui a joué donc à Flash 8. Johan, 7 ans, a joué à Flash 8. Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans Flash 8 ?
Il y a des jetons, il y a des rouges, des verts, des jaunes, des bleus, des violets. Il faut les déplacer sans les enlever et sans les mettre. Il faut reconstituer la carte.
D'accord. Et alors comment tu les déplaces sans les enlever ?
Tu les fais glisser avec le doigt.
D'accord, tu les fais glisser et après il faut refaire exactement la même carte, le modèle qu'il y a sur la table ?
Oui.
Est-ce que tu y arrives ?
J'en ai gagné la dernière fois 5.
5, c'est bien, dis donc. Bravo, Johan.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
C'est ludique. L'heure de jouer sans avoir les yeux explosés.
Et pour finir ce C'est ludique aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu 2D. L'un des nouveaux jeux de Zeman Games est distribué par Asmodee. On va plonger et découvrir le jeu Naughty Luca. Alors comme quand vous allez ouvrir la boîte, hein, la première chose que vous allez voir, eh bien, c'est les nombreux dés de couleurs, puisqu'il y en a 104. Hein. Le but du jeu est de plonger, enfin façon de parler, hein, pour récupérer ces dés de couleurs sur un grand plateau. Et oui, vous allez donc récupérer les dés qui représentent des méduses luminescentes, appelées donc les Naughty Luca, pour ensuite les mettre dans des gros pots, des jars, quoi. Hein. Allez, on va jouer. En début de partie, on aura une carte préférence qui, selon la couleur des Naughty Luca récupérées, nous permettra d'avoir un bonus et des cartes avec des jars ou un bocal hein, dessus. Bah oui, je vous ai dit qu'il fallait les mettre dans le pot. Alors, Naughty Luca se joue en deux manches qui sont assez similaires. Alors, chacun son tour, on va placer ses pions autour du bassin. Le but est de prendre tous les dés d'une même ligne, mais forcément, vous n'allez pas pouvoir tous les prendre. Vous dites avant de les prendre un chiffre entre 1 et 6. Si je dis par exemple 3, je vais prendre tous les dés qui ont la valeur 3. Et oui, car avant de commencer la partie, on a placé donc aléatoirement des dés par 4. Et ces dés représentent donc les Naughty Luca. Alors une fois qu'on en a récupéré ces dés, c'est bien, mais on fait quoi maintenant ? Eh bien, il faut les placer dans nos bocaux sur les cases selon les couleurs. Alors dans cette partie du jeu, on ne s'occupe plus d'ailleurs des chiffres, mais uniquement de la couleur des dés. Une fois les bocaux remplis, eh bien, il vous reste peut-être des dés. Eh bien, on va faire ce qu'on appelle du draft de dés. Dans ce cas, c'est le joueur suivant qui va récupérer les dés. Il en prend un et passe les autres à son voisin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés, et ainsi de suite. Hein. Le reste des dés est remis dans la boîte. Et qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, une fois que nos bocaux sont pleins, eh bien, va falloir les livrer. On remet les dés dans la boîte et on récupère un jeton point sur la pile qui correspond donc à la couleur de son bocal. Le joueur met le jeton face colorée, retourne donc la carte du bocal. Il a donc le droit de prendre une nouvelle carte. Une fois que chaque joueur a placé ses pions autour du bassin, la première manche est terminée. Tout le monde reprend ses pions et les dés sont remis toujours de façon aléatoire et on recommence les mêmes étapes que la première manche. Alors voilà, la partie est terminée, tous les joueurs ont rempli leurs bocaux et ont eu des jetons de couleur à chaque fois qu'ils ont livré donc eh bien, une jarre. Alors il est temps donc de regarder celui qui en a récupéré le plus de jetons de telle ou telle couleur. Si par exemple, eh bien, j'ai récupéré le plus de jetons de couleur rouge, eh bien, je vais récupérer tous les jetons rouges qui restent et les retourne par contre sur la face 1. Ça veut dire que je gagne un point par jeton plus les points que j'avais récupérés au cours des deux manches. On rajoutera également des points pour notre couleur bonus, mais aussi pour les paires de dés qui n'ont pas été livrées. Comme dans la plupart des jeux, au final, celui qui a le plus de points remporte la partie. Alors si vous cherchez un jeu simple de dés, franchement, eh bien Nautiluca va vous plaire. En plus, il est très coloré. Il faudra trouver le bon endroit pour placer son pion et repérer les dés pour remplir vos bocaux. Alors c'est un jeu abstrait, avec des règles simples, mais un jeu d'observation également. Alors forcément, au début de chaque manche, il y a beaucoup de dés. Mais plus le jeu avance, plus vous allez regarder aussi les dés qui vont arranger vos adversaires et faire tout pour placer votre pion sur cette ligne. Pendant le tour des autres, vous allez d'ailleurs réfléchir à la ligne qui pourrait plus vous intéresser. Alors ok, sur le mécanisme, c'est du déjà vu, mais il fonctionne tellement bien que il est idéal pour jouer avec les plus jeunes. C'est un jeu familial qui nous fera plonger au cœur des Nautiluca. C'est un jeu distribué par Asmodée. Allez, pour la musique, c'est Coldplay qui arrive sur Millennium avec Orphance.
C'est ludique.
Voilà, c'est ludique, c'est terminé pour cette semaine. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'on vous fait gagner les jeux du 31. Je vous avais présenté les deux jeux des éditions du droit de perdre, Buzzerfucker et Débat débile.